Sang d'Europe, Juliette Garbrand.
Bonjour et bienvenue dans Accent d'Europe. Partout à travers l'Europe, les Syriens ont célébré ce week-end la chute de Bachar al-Assad, un séisme politique, la fin de 50 années de dictature al-Assad, celle du père Hafez, puis celle de son fils Bachar. Après le début de la guerre civile de 2011, près de 5 millions de Syriens ont fui leur pays. En Europe, la Suède a été l'un des premiers à leur accorder des permis de résidence permanents. Ils sont environ 250 000 aujourd'hui dans le pays. Notre correspondante à Stockholm, Ottilia Ferret, était dans la rue avec eux dimanche.
On voit rarement des manifestations de cette ampleur en Suède, mais ce dimanche, ils étaient des centaines réunis sur la place centrale de Stockholm. Ils chantaient à ses poumonnés, ils dansaient et agitaient le drapeau syrien sur lequel on pouvait lire « Free Syria ». Pour ces réfugiés de la guerre civile, c'est un jour historique. Le premier réflexe de fermer, par exemple, arrivé en 2015 et désormais chef d'entreprise dans la capitale suédoise, a été de regarder les billets d'avion direction Damas.
Tu comprends ce qui se passe ? On a libéré la Syrie, on a vaincu la Russie, l'Iran, le Hezbollah. On veut retrouver une démocratie, une vraie démocratie qu'on va ériger par nous-mêmes, je te le jure.
Fermé raconte par exemple qu'il a été jeté en prison car il avait simplement pris part à des manifestations contre le régime de Bachar al-Assad. Le 1er octobre 2015, la date il s'en rappelle précisément, il a réussi à fuir le pays.
On est tellement heureux aujourd'hui. La Suède nous a accueillis quand on avait besoin, mais maintenant il est temps pour nous d'avoir notre propre démocratie, pas une démocratie imposée par l'Ouest. Nous ne sommes pas des islamistes, nous sommes un peuple qui veut rebâtir son pays pour avoir un régime politique comme en Suède et dans le reste de l'Europe. Tous les gens que tu vois ici, dans une semaine, on est partis. J'ai regardé les billets d'avion, il n'y en avait déjà plus. Donc merci la Suède, on aura besoin de vous dans l'avenir. 90% d'entre nous veulent rentrer. Moi je vais fermer mon entreprise ici et rentrer en Syrie pour tout reconstruire. Ce sont nos derniers moments ici.
Leurs enfants, enveloppés dans des drapeaux syriens sur les épaules, ils entonnent tous en chœur un chant contre Bachar et son père. Mais certains, comme Lawal, 25 ans, vont sûrement attendre un petit peu de voir comment le pays se reconstruit avant de rentrer en Syrie.
Je pense que je vais attendre encore un ou deux ans et puis je vais rentrer chez moi. Enfin, ça fait 10 ans que je n'ai pas vu ma famille. Ma mamie et mon papy me manquent. Mon ami ici vient d'arriver en Suède, mais ça fait 7 ans qu'il n'a pas vu ses proches. Il a dû fuir la guerre. Tout ce qu'il veut, c'est rentrer à la maison. J'espère qu'on aura la paix, et j'y crois. Je crois qu'on va enfin pouvoir tous vivre en paix, sans guerre, sans que les enfants grandissent dans ces conditions terribles.
Il faut rappeler que la Suède est le deuxième pays de l'Union européenne à avoir accueilli le plus grand nombre de Syriens après l'Allemagne. Mazin, lui, a 22 ans. En 2012, il a réussi à quitter la Syrie pour la Jordanie avant d'arriver en Suède en 2021.
Il faut que ce soit clair. Beaucoup pensent que c'est l'État islamique qui a maintenant pris le contrôle de la Syrie. Mais je veux que tout le monde sache que ce n'est pas l'État islamique. Ce sont les enfants d'hier, le peuple syrien, qui a repris la situation en main. Tout va se stabiliser maintenant. La plupart d'entre nous espérons pouvoir rentrer. Beaucoup de Syriens d'Europe ont maintenant une double nationalité. Ils ont des diplômes d'université européenne et avec ça, ils vont reconstruire le pays.
Mais tous ne semblent pas aussi décidés à quitter la Suède pour l'instant. Ça fait 13 ans, par exemple, que Ahmed est arrivé dans le royaume. Il y a construit toute sa vie.
Mes enfants sont maintenant suédois. Nous vivons ici. Et c'est à la Suède qu'on doit cette vie. Bien sûr qu'on aimerait retourner en Syrie, mais tout en continuant de vivre ici. La Suède et la Syrie, ce sont nos deux pays.
Alors sans grande surprise, l'extrême droite voit ici, et je cite, une bonne opportunité pour les Syriens de rentrer chez eux. Le leader des démocrates de Suède a aussi annoncé vouloir réexaminer les permis de séjour attribués aux réfugiés syriens. Il veut aussi renforcer les contrôles d'identité et renforcer les frontières suédoises, car en fait ce qu'il craint c'est une nouvelle vague de réfugiés venus de Syrie. Reste à savoir bien sûr à quoi ressemblera la Syrie sous l'influence des groupes rebelles. En attendant, la ministre des Affaires étrangères suédoise a conseillé aux Suédois de ne pas se rendre en Syrie.
L'Allemagne pourrait livrer à Kiev des missiles longue portée Taurus. C'est le favori des prochaines élections allemandes, Friedrich Merz, qui le réaffirme aujourd'hui après une rencontre avec le président Zelensky. L'Ukraine demande aussi davantage de systèmes de défense antiaérienne pour protéger ses infrastructures énergétiques. La situation dans le pays alors que l'hiver s'installe, on en parle avec Emmanuelle Chaz, correspondante de RFI à Kiev, en studio lors de son passage à Paris la semaine dernière. Emmanuelle, dites-nous comment la situation évolue en ce moment ?
Mais écoutez, c'est vrai qu'il y a eu un changement. On a vraiment vu une intensification des frappes russes contre l'ensemble de l'Ukraine. Et ça concerne aussi la capitale Kiev. Pour vous donner une idée, maintenant, c'est quotidiennement qu'on entend des drones survoler le centre-ville. Alors, c'est vrai qu'il y a quelques semaines, on les entendait moins parce qu'ils étaient interceptés avant l'arrivée en ville. Là, on les entend vraiment survoler le centre-ville. On entend lorsqu'ils sont interceptés. Donc, il y a vraiment un climat d'angoisse toutes les nuits parce que ce n'est pas qu'un drone, c'est plusieurs drones. Ce sont des drones kamikazes. On sait aussi que les Russes en charge certains. Alors certains sont vides pour justement tromper la défense antiaérienne, mais certains sont doublement chargés d'explosifs pour faire un maximum de dommages lorsqu'ils s'écrasent. Et non seulement lorsqu'ils s'écrasent sur leur cible, mais aussi lorsqu'ils sont interceptés et qu'ils tombent là où ils ne devraient pas tomber. Et c'est dans ces cas-là qu'on a aussi des victimes, notamment civiles, et des dégâts matériels sur des infrastructures civiles.
L'ouest du pays est également touché en ce moment.
Tout à fait. Il y a le 2 décembre, la ville de Ternopil dans l'ouest du pays, 1000 km de la ligne de front a été touchée. C'est vrai que ça arrive de plus en plus souvent que des infrastructures dans l'ouest du pays soient touchées. Ce n'est pas la première fois, mais c'est vrai qu'on voit une augmentation de ces frappes. Ternopil, 225 000 habitants dans l'ouest de l'Ukraine, donc pas très loin finalement de la frontière avec l'Union européenne. Et ces frappes, justement, elles posent problème. Ce sont des crimes de guerre parce qu'on ne frappe pas des infrastructures énergétiques, des infrastructures civiles. Ce n'est pas une cible militaire. Et il y a des dégâts côté civil, puisque cette nuit-là, donc la nuit du 2 au 3 décembre, un homme est mort dans son appartement qui a été touché par un drone kamikaze. Donc on voit le prix humain payé par les Ukrainiens au quotidien, pas seulement les soldats sur la ligne de front, mais aussi la population civile lors de ces frappes aériennes russes.
Est-ce qu'il y a aussi une peur aujourd'hui de la menace nucléaire, de la menace des armes chimiques en particulier ?
Alors, il y a déjà de l'utilisation d'armes sales, des bombes à sous-munitions, des bombes planantes, notamment utilisées à profusion par la Russie, notamment sur les villes proches de la ligne de front, mais pas que. On a vu à Dnipro, il y a quelques jours, le président russe Vladimir Poutine s'était vanté d'envoyer un missile expérimental qui avait fait beaucoup parler parce qu'on avait dit qu'il y a une menace nucléaire qui est plus élevée qu'avant. Côté ukrainien, on ne va pas forcément s'inquiéter de cette ligne rouge que Vladimir Poutine prétend que les Ukrainiens ont franchi, puisque finalement, à chaque fois qu'il y a eu des livraisons d'armes par les Occidentaux, je pense au système Patriot, je pense aux premières livraisons de missiles à longue portée, même quand ils n'étaient pas utilisés sur le territoire russe, Poutine avait menacé, et ces menaces finalement n'étaient pas suivies d'exécution. Maintenant, ce qui a changé avec ce discours de Poutine après l'utilisation du missile sur Dnipro, c'est qu'il y a aussi la désinformation russe qui veut dire que finalement c'est une réponse à une agression ukrainienne. Il fait référence à l'utilisation de missiles de longue portée sur territoire russe par l'Ukraine, des missiles occidentaux, sauf que l'Ukraine envoie ses missiles pour se défendre. Donc il faut bien garder à l'esprit que dans cette guerre, il y a un pays qui se défend, qui est l'Ukraine, et dont l'intégrité territoriale a été violée, dont la souveraineté a été violée par un agresseur, la Russie, et il y a donc cet agresseur qui est Moscou.
Est-ce que vous sentez une usure dans la population et peut-être une plus grande réceptivité à l'idée d'une négociation pour sortir de ce conflit ?
Alors c'est vrai qu'on entend beaucoup parler en Occident de négociations, de cesser le feu. C'est vrai qu'il y a plus de gens maintenant qu'en 2022 qui seraient prêts à parler de concessions territoriales, tout simplement parce que les Ukrainiens sont aussi fatigués de cette guerre. Après, il faut garder à l'esprit que des millions de personnes en Ukraine ont perdu des proches, que ce soit sur la ligne de front ou dans des frappes russes. Et à ces gens-là, il est très difficile de dire on va négocier avec votre agresseur. Ce sont des gens qui ont payé le prix du sang, qui ont perdu des êtres chers et pour qui il est très difficile d'entendre qu'on s'achemine vers des négociations.
Est-ce qu'on entend beaucoup parler de l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche dans les médias ?
On en entend parler dans les médias et aussi tout simplement en société. C'est une question qui préoccupe les Ukrainiens. Après, pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer, notamment ces frappes, notamment la situation sur la ligne de front, les Ukrainiens sont assez pragmatiques parce qu'il y a des choses plus immédiates, c'est-à-dire survivre d'une nuit à l'autre, déjà survivre aux frappes et ensuite la politique arrive. Alors, il y a aussi eu beaucoup de frustration par rapport à la politique de Joe Biden. Donc maintenant, les promesses de terminer la guerre assez rapidement, c'est quelque chose aussi que les Ukrainiens regardent avec curiosité, mais bien sûr, il y a une inquiétude, surtout par rapport au caractère spontané de Donald Trump. Et évidemment, ils ont peur de la politique qu'il va mener à l'égard de l'Ukraine.
Et quel est le regard que portent les Ukrainiens aujourd'hui sur l'Union, les pays de l'Union européenne, où de plus en plus de forces pro-russes se font entendre?
Alors, il y a une frustration aussi à cet égard de voir à quel point la désinformation russe est efficace, que ce soit dans les médias occidentaux, que ce soit dans le discours occidental et dans les préjugés vis-à-vis de l'Ukraine. Donc, il y a un sentiment aussi un peu de déception que l'Union européenne, finalement, n'a pas compris que si l'Ukraine ne tient pas, le problème sera déplacé justement dans l'Union européenne. Et en même temps, il y a l'espoir que ce soutien européen va s'accélérer, va s'intensifier, notamment en raison de la politique incertaine américaine qu'on voit se profiler.
Merci Emmanuel Chaz, à bientôt. L'accord conclu par la Commission européenne avec les pays du Mercosur vendredi à Montevideo devrait ouvrir aux 27 un marché de 770 millions de consommateurs. Mais la France y reste opposée. Elle estime que le coût industriel et environnemental à payer n'est pas acceptable et tente de rallier d'autres États de l'Union européenne à sa position. Car rien n'est joué, rappelle l'Élysée. Une minorité de blocage est encore possible au Conseil européen. Varsovie est déjà du côté de Paris et Rome pourrait les rejoindre. En Italie aussi, les agriculteurs et les éleveurs sont inquiets, comme l'a constaté Cécile Debarge à Ripatranzone, un bourg du cœur de la région des Marches, dans le centre du pays.
Ici, on est dans un élevage de vaches à viande. On vient de terminer ce matin de tout nettoyer et de donner à manger aux animaux.
Dans la chaleur de l'étable, Marco Gregori présente son cheptel. Une soixantaine de veaux et de vaches d'une race typique des Marches. Une partie du bétail bénéficie d'une appellation géographique protégée, ce qui le contraint à des conditions d'élevage strictes.
Bien sûr, pas d'hormones, c'est interdit. Pas d'OGM. Et ensuite, l'alimentation des derniers 3 à 6 mois de vie doit être une alimentation à sec uniquement.
Cela veut dire que ces animaux ne peuvent manger que du foin. Il produit donc son fourrage et ses propres céréales.
Le type d'élevage et le type d'agriculture que nous faisons ici est fortement lié au territoire. Et le fait que puissent arriver en Europe des marchandises qui sont produites selon des règles et des standards totalement différents des nôtres, eh bien cela pourrait avoir une incidence très négative.
Cet éleveur de 30 ans a repris l'entreprise familiale il y a 3 ans. Ses parents, tous deux retraités, continuent de l'aider à temps plein pour faire fonctionner la ferme. Leur viande est surtout vendue à des boucheries locales. Pourtant, comme de nombreux éleveurs et agriculteurs en Italie, il est inquiet des conséquences que pourrait avoir la signature des accords Mercosur entre l'Union européenne et les pays d'Amérique latine.
Nous ne sommes absolument pas contre la libre circulation ou le marché libre, pas du tout. Mais nous maintenons que les conditions de départ doivent être, si ce n'est égales, au moins les plus semblables possibles entre les différents pays pour ne pas que cela devienne de la concurrence déloyale.
Par exemple, les éleveurs européens n'ont pas le droit d'utiliser d'hormones de croissance pour leur bétail, à la différence des pays d'Amérique latine.
Si on part du principe qu'on peut envoyer à l'abattoir un veau à 20-22 mois avec l'utilisation d'hormones, on devrait probablement pouvoir le faire dès 14 ou 15 mois, quand on aurait atteint le même poids. Donc, pour une entreprise, ça pose la question de maintenir un animal 6-7 mois en plus, donc un semestre, avec les coûts que cela implique.
Le jeune éleveur vend son kilo de viande entre 6 et 7 euros en moyenne. Le prix est plutôt stable, mais les coûts de production augmentent, la marge se réduit. Forcément, il craint de voir arriver sur le marché de la viande moins chère à produire.
55% de la viande consommée en Italie n'a pas été élevée en Italie, donc le risque est que ce chiffre augmente encore plus.
Les craintes sont les mêmes pour tous les secteurs d'activité. Le jeune éleveur possède également quelques hectares de vignes, Sangiovese, Montepulciano, Pecorino, autant de cépages locaux, ensuite revendus à une coopérative qui exporte aussi à l'international. Dans le secteur viticole, c'est l'utilisation massive de pesticides interdits dans l'Union européenne qui préoccupe les agriculteurs.
Je pense aussi qu'à plus grande échelle, l'impact que cela pourrait avoir sur les petites et moyennes entreprises comme la mienne serait peut-être pas une fermeture, mais en tout cas un changement d'échelle important.
Marco Gregori est aussi le président des jeunes agriculteurs des provinces de Fermo et d'Ascoli Piceno pour le syndicat Coldiretti. Ces deux territoires montagneux ou vallonnés comptent compte près de 6000 exploitations agricoles, souvent de petite ou moyenne taille. Au-delà de la nourriture qu'elles produisent, elles ont un rôle important dans le développement de ces régions à faible densité de population.
Dans les zones de montagne ou de collines, c'est moche à dire, mais ça pourrait faire mourir ces territoires et provoquer leur abandon définitif.
Pour continuer de maintenir à flot leur activité, les agriculteurs misent beaucoup sur le développement du circuit court, notamment pour convaincre les consommateurs de l'importance d'acheter des produits locaux et de qualité.
L'accord avec le Mercosur suscite aussi beaucoup d'inquiétudes pour l'environnement. L'organisation Greenpeace évoque un projet toxique avec des impacts désastreux sur l'Amazonie, le climat et les droits de l'homme, fin de citation, et bien sûr sur la santé des Européens. La France veut que les membres du Mercosur appliquent les mêmes normes environnementales que celles de l'Union européenne pour éviter une concurrence déloyale. Mais en réalité, Frédéric Lebel, si on regarde ce qu'il se passe avec les pesticides, on voit non seulement que ces distorsions existent déjà, mais qu'elles vont au-delà de ce qu'on peut imaginer.
Oui, tout d'abord parce que l'Europe est déjà le deuxième marché à l'exportation des pays du Mercosur et que l'Europe n'interdit pas l'importation de fruits et légumes qui ont été traités dans leur pays d'origine avec des pesticides interdits ici. La seule règle que doivent respecter ces produits, c'est de ne pas dépasser la limite maximale de résidus, la fameuse LMR en bon jargon. Avec un tel système, deux problèmes se posent. Tous les produits ne sont pas contrôlés, bien évidemment, donc il peut y avoir des trous dans la raquette. Et surtout, ce système est fait pour protéger le consommateur européen qui ne devrait pas être exposé en mangeant à des produits dangereux. Mais il ne protège en rien la planète. Le Brésil peut bien utiliser autant de pesticides dangereux qu'il souhaite, avec des impacts désastreux sur la biodiversité et la santé. La seule question qui importe aux Européens, ce sont les traces éventuelles qui restent. Or, on sait que plus on utilise ces pesticides en amont dans le processus agricole, plus vite ils disparaissent des fruits et légumes.
Par ailleurs, Frédéric, il semble que cette question des pesticides n'intéresse plus beaucoup le législateur européen.
Oui, la Commission avait pourtant mis sur la table en 2022 un règlement très ambitieux qui prévoyait de diviser par deux la quantité de pesticides d'ici 2030. Devant l'opposition des élus de droite du précédent Parlement européen, le projet a tout simplement été abandonné. On se souvient aussi que le glyphosate a été réautorisé pour 10 ans à l'échelle européenne. Et puis en France, le plan national Ecophyto, lui aussi très ambitieux, a été revu à la baisse, notamment par un tour de passe-passe sur le mode de calcul. En gros, on ne tient plus compte de tous les pesticides, mais simplement des plus dangereux. La pression du monde agricole voudrait imposer que la France n'aille d'ailleurs jamais plus loin que l'Europe sur cette question. C'est ce que les syndicats agricoles appellent la surtransposition. Par exemple, les betteraviers français demandent à utiliser des néonicotinoïdes interdits en France, mais autorisés en Allemagne.
La France qui se présente en législateur vertueux, alors qu'en réalité, Frédéric, elle permet l'exportation de pesticides dont l'usage est interdit dans l'UE.
Oui, et c'est sans doute l'aspect le plus absurde de la situation actuelle. La France, mais aussi l'Allemagne et la Suisse, qui ne fait pas partie de l'UE, continuent de fabriquer et d'exporter des pesticides dont l'usage est interdit sur leur sol. Depuis la France, ce sont 7300 tonnes qui ont été vendues en 2023. Je vous le donne en mille, vers le Brésil. Premier producteur du Mercosur, mais aussi l'Ukraine. Les produits reviennent ensuite sur nos étalages de manière indirecte avec les importations. La France est pourtant le pays au monde qui a le texte législatif le plus strict, le texte Egalim, qui bannit toute exportation de pesticides interdits. Mais le diable se cache dans les détails. Le texte interdit l'exportation de produits dangereux, mais pas de ses principes actifs. Les grands groupes chimiques comme l'américain Corteva ou l'allemand BASF, qui ont des usines en France, ont donc des juristes fin limier qui ont vite repéré la faille, si bien que leurs usines continuent à polluer nos ressources en eau et favoriser une agriculture brésilienne ou tunisienne bien moins pointilleuse sur les pesticides. Pour colmater cette brèche, il faudrait un nouveau texte législatif. Autant dire que l'actualité politique française ne le permet pas pour l'instant.
Merci Frédéric Lebel. C'est vous que les auditeurs retrouvent la semaine prochaine aux manettes d'Accent d'Europe. À très bientôt. À la réalisation Théo Raison, le podcast de l'émission c'est sur RFI Pure Radio et toutes les bonnes plateformes. Et moi je vous retrouve demain, même heure, même fréquence.